Extrait des chroniques du hors-temps. L'hibernation. Les premiers pas de l'homme dans le temps. Observée sous un angle sociologique, une nouvelle technologie peut faire apparaître différents aspects, mais lorsque cette technologie est encore en germe ou qu'elle vient juste de naître, rares sont ceux qui pensent à utiliser la loupe du sociologue. Par exemple, l'ordinateur. Au tout début, on le voyait comme un objet permettant simplement d'augmenter l'efficacité d'un calcul, si bien que certains considéraient alors que 5 de ces machines seraient bien suffisantes pour le monde entier. Il n'en fut pas autrement pour l'hibernation artificielle. Du temps où elle n'était qu'une hypothèse, tout le monde considérait que cette technologie n'offrait rien d'autre qu'une opportunité pour des malades incurables d'être soignés à une époque ultérieure. Ceux qui allaient plus loin concédaient qu'elle pourrait être utile pour des longs vols interstellaires, mais aussitôt cette technologie devenue réalité, un simple coup d'œil suffit à n'importe quel sociologue pour comprendre qu'elle allait changer la face de la civilisation humaine. Tout reposait sur un seul credo : demain sera meilleur. En réalité, la foi dans le progrès était assez nouvelle. Elle n'était partagée par les hommes que depuis 2 ou 3 siècles à peine. Jadis, cette idée aurait certainement paru ridicule. Par comparaison avec la Rome antique, le Moyen-Âge européen était par exemple non seulement plus pauvre matériellement, mais aussi plus oppressé spirituellement. Quant à la Chine, il n'y avait qu'à comparer l'époque des dynasties Jin, Wei, du Nord et du Sud avec celle des Han, ou bien encore celle des Yuan et des Ming avec les dynasties Tang et Song, pour réaliser que certaines périodes dynastiques pouvaient être bien pires que celles les ayant précédées. Mais depuis la révolution industrielle, le progrès était devenu la norme des sociétés humaines, et la foi dans l'avenir s'était consolidée peu à peu. Elle avait atteint son point culminant quelque temps avant que la crise trisolarienne éclate. La guerre froide était alors terminée depuis un bon moment, et même si les problèmes environnementaux étaient encore loin d'être résolus, ils étaient plus fâcheux que terrifiants. Le confort matériel de l'humanité allait en s'améliorant, et la tendance s'accélérait au rythme d'un cheval au galop. Si on avait en ce temps-là demandé aux gens de prédire les 10 ans à venir, leur réponse aurait peut-être été différente, mais nul doute que la plupart auraient répondu qu'en 4 siècles, la Terre aurait eu le temps de devenir paradisiaque. Cette croyance n'avait rien d'extraordinaire. Les personnes interrogées n'avaient qu'à comparer leur vie actuelle à celle de leurs ancêtres 100 ans plus tôt. Par conséquent, si hiberner devenait possible, qui aurait encore envie de s'attarder dans le présent ? Examinés d'un point de vue sociologique, les problèmes éthiques soulevés par l'hibernation étaient insignifiants si on les comparait à ceux qui se présentaient en cas d'avancée biotechnologique importante dans le domaine du clonage. Le clonage posait en effet des questions morales, quoique principalement pour les chrétiens. Néanmoins, le danger latent de l'hibernation était réel et pouvait avoir des répercussions sur l'ensemble du monde humain. Une fois que cette technologie serait commercialisée, ceux qui en auraient les moyens rejoindraient un futur paradisiaque, tandis que ceux qui resteraient n'auraient comme seul choix que de manger la poussière du présent et travailler à l'édification du futur paradis de leurs congénères. Mais il y avait plus préoccupant encore, ce sur quoi l'homme fantasmait depuis la nuit des temps, la vie éternelle. Avec les progrès de la biologie moléculaire, on commençait à croire que l'immortalité pourrait être atteinte dans 1 ou 2 siècles. Les plus chanceux pourraient donc se faire hiberner et gravir ainsi la première marche de l'escalier menant à l'éternité. Aussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le dieu de la mort lui-même n'était plus équitable et nul ne pouvait prédire quelles en seraient les conséquences. Cette situation était très similaire au mouvement évasionniste qui avait émergé aussitôt après le déclenchement de la Grande Crise, à tel point même que les historiens parleraient plus tard au sujet de cette époque de pré-évasionnisme ou d'évasionnisme temporel. Avant le début de la Grande Crise, les gouvernements de tous les pays adoptèrent donc, contre la technologie d'hibernation, des mesures encore plus répressives que celles contre le clonage humain. Naturellement, la crise trisolarienne changea la donne. En une nuit, le paradis du futur était devenu un enfer. Même pour les malades en phase terminale, l'avenir avait perdu de son attrait, car le monde dans lequel il s'éveillerait risquerait de baigner au milieu d'un océan de flammes où n'existerait peut-être plus aucun analgésique. Par conséquent, après l'apparition de la crise, les freins au développement de la technologie d'hibernation furent entièrement levés et celle-ci entra vite dans une phase d'application. Pour la première fois, l'humanité possédait le pouvoir de traverser les vastes contrées du temps. Dans le cadre de ses investigations sur la technologie d'hibernation, Cheng Xin se rendit à Sanya sur l'île de Hainan. Il pouvait paraître incongru que l'Académie nationale de médecine ait établi son plus grand centre d'hibernation dans une région tropicale aussi caniculaire. Quand l'hiver faisait rage sur le continent, il faisait ici aussi doux qu'au printemps. Le centre d'hibernation était un bâtiment blanc ombragé par une épaisse végétation. Une dizaine de testeurs volontaires s'y trouvaient en ce moment même en état d'hibernation de courte durée. Jusqu'ici, aucun hibernaute n'avait encore entamé de périple à travers les siècles. Lorsque Cheng Xin demanda s'il était envisageable de réduire le matériel d'hibernation pour qu'il descende en dessous des 100 kilos, le directeur du centre étouffa un rire. « 100 kilos? Mais même 100 tonnes, nous aurions du mal !» Bien entendu, il en rajoutait. Durant sa visite du centre, Cheng Xin apprit que le processus d'hibernation ne consistait pas à congeler un individu, comme l'idée était pourtant largement répandue. La température à laquelle était plongé le patient n'était pas si basse, moins 50 degrés Celsius. Au cours de l'opération, le sang était remplacé à l'intérieur du corps par un liquide cryoprotecteur. Grâce à un système circulatoire externe, les principaux organes conservaient une activité biologique minimale, quoique extrêmement lente. « Un peu comme un ordinateur en veille », expliqua le directeur. Un système complet d'hibernation, comprenant la cabine d'hibernation, le système de support de vie et le matériel de cryogénisation, pesait en tout près de 3 tonnes. En discutant avec des techniciens du centre de la possibilité de miniaturiser les équipements, Cheng Xin se heurta à un constat surprenant. Si la température du corps en hibernation devait être maintenue à moins 50 degrés Celsius au milieu de l'espace glacial, il faudrait non pas refroidir la cabine, mais la chauffer. Ce serait tout particulièrement le cas lors de l'interminable traversée qui commencerait au-delà de l'orbite de Pluton, où la température serait proche du zéro absolu. Maintenir une température de moins 50 degrés Celsius revenait presque dans l'espace à entretenir une fournaise. Compte tenu du fait que le vol durerait 1 à 2 siècles, la solution la plus pratique était de doter la sonde d'une unité de réchauffage à radioisotope. Mais dans ce cas, les 100 tonnes annoncées par le directeur n'étaient finalement pas si extravagantes. Cheng Xin rentra faire son rapport au quartier général de l'agence. Quand les résultats de différentes recherches menées en parallèle furent mis en commun, la tristesse s'empara à nouveau des membres de l'ARP. Mais contrairement à la fois précédente, leur regard posé sur Wade était plein d'espoir. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je ne suis pas Dieu ?» tonna Wade en balayant la salle des yeux. « Pourquoi pensez-vous que vos pays vous ont envoyé ici ?» Certainement pas pour m'apporter des mauvaises nouvelles et toucher tranquillement votre salaire à la fin du mois. Je n'ai pas de solution, c'est votre boulot de trouver des solutions. » Quand il eut fini, il donna un violent coup de pied dans la table. Dans un crissement assourdissant, sa chaise recula encore plus loin que la dernière fois. Puis il s'alluma un cigare, transgressant la règle qui interdisait de fumer à l'intérieur. L'attention des participants se concentra cette fois sur les experts en hibernation ayant récemment rejoint l'agence. Ceux-ci restèrent cependant muets et envahis de cette irritation propre aux professionnels qui font face à de parfaits néophytes exigeant l'impossible, ils ne se donnèrent même pas la peine de réfléchir. « Peut-être, » lâcha Cheng Xin d'une voix timorée et le regard hésitant, « elle ne s'était pas encore faite au MD. » « De l'avant !» Encore de l'avant et ne recule devant rien, lança Wade à Chung Sin en crachant une volute de fumée de cigare. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer un espion vivant, dit-elle. Les autres participants s'observèrent, puis interrogèrent du regard les experts en hibernation. Ceux-ci secouèrent la tête, signifiant qu'ils ne savaient pas où Chung Sin voulait en venir. Chung Sin poursuivit son explication. « Nous pourrions surgeler rapidement un individu à une température descendant en dessous de moins de 100 degrés Celsius avant de l'envoyer dans l'espace. Il serait ainsi possible de nous passer de systèmes de support de vie et de matériel chauffant. Nous n'aurions besoin que d'une cabine individuelle que nous pouvons imaginer suffisamment petite et légère pour descendre en dessous des 110 kilos. À nos yeux, l'individu serait certes mort, mais il en serait peut-être différemment aux yeux des trisolariens. » Un expert en hibernation prit la parole. « Le plus grand obstacle pour ressusciter un individu surgelé est d'empêcher la destruction de ses structures cellulaires durant le processus de décongélation. C'est ce qui arrive quand on congèle du tofu. Une fois décongelé, il a l'aspect d'une éponge. Oh, peut-être que certains parmi vous n'ont jamais mangé du tofu ?» demanda cet expert originaire de Chine aux occidentaux de la pièce, parmi lesquels nombre d'entre eux entendaient parler de cet aliment pour la première fois. Les trisolariens possèdent peut-être une technique pour éviter cette destruction en décongelant un corps et en lui rendant sa température originelle en un laps de temps extrêmement court, une milliseconde, voire une nanoseconde. Mais nous, humains, nous n'en avons pas. En tout cas, aucune qui ne provoquerait pas simultanément la vaporisation du corps exposé à une très haute température. Chung Sin était déjà plus attentive à la discussion. Toutes ses pensées se concentraient désormais sur une question. Qui serait l'humain surgelé envoyé dans l'espace? Elle s'efforçait d'essayer d'aller de l'avant, de ne reculer devant rien, mais ses pas tremblaient. Très bien, fit Wade en hochant la tête dans sa direction. De mémoire de Chung Sin, c'était la première fois qu'il félicitait un employé subalterne. La réunion du jour des membres permanents du Conseil de défense planétaire avait pour objet de délibérer sur la dernière mise à jour du programme Escalier. Les négociations menées de façon informelle par Wade avec chacun des représentants incitaient à l'optimisme. C'était la nature même du projet qui avait changé. Il s'agissait désormais d'engager un premier contact direct entre l'homme et une intelligence extraterrestre, ce qui relevait d'un niveau l'importance de ce nouveau projet par rapport à la précédente version. D'autant que cet espion envoyé en plein cœur de la flotte trisolarienne pourrait faire l'effet d'une bombe à retardement. En utilisant à son avantage la supériorité humaine en matière de complot et de ruse, il, ou elle, pourrait bien changer le cours de la guerre. Une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tenant le soir même pour annoncer officiellement au monde entier le lancement du programme collimateur, la réunion du CDP fut retardée de plus d'une heure. Les membres de l'ARP furent contraints d'attendre dans le grand hall, à l'extérieur de la salle de l'Assemblée générale. Durant les précédentes réunions du CDP, seuls Wade et Vadimov étaient autorisés à entrer dans l'enceinte. Les autres devaient rester dehors, attendant que l'un d'entre eux soit appelé lorsque son expertise était requise. Toutefois, ce soir-là, Wade demanda à Chung Sin de les accompagner. C'était un honneur immense pour une simple assistante. Lorsque la session extraordinaire des Nations Unies fut terminée, ils virent un individu venant de sortir de la salle être encerclé par une nuée de journalistes. Probablement l'un des collimateurs dont le nom venait d'être annoncé. Les membres de l'ARP s'étaient jusqu'ici entièrement consacrés au programme Escalier, et cette nouvelle n'éveillait que modérément leur intérêt. Seuls deux curieux allèrent jeter un coup d'œil. Lorsqu'eut lieu la tentative d'assassinat sur Luoji, aucun d'entre eux n'entendit les coups de feu. Ils remarquèrent simplement à travers la grande porte en verre une soudaine agitation à l'extérieur. Chung Sin suivit le mouvement général en se précipitant hors du bâtiment, mais elle fut aussitôt éblouie par les projecteurs d'un hélicoptère en vol. « Un collimateur vient de se faire buter !» lui cria un collègue qui l'avait devancé. Ils disent que plusieurs coups ont été tirés et qu'il a pris une balle en pleine tête. Qui sont les colmateurs ? Demanda froidement Wade, que l'incident ne paraissait pas émouvoir. D'après ce que j'ai compris, il paraît que trois d'entre eux étaient des candidats déjà célèbres et le quatrième, celui qui vient de se faire tirer dessus, c'était un gars de chez toi, dit-il en désignant Chung Sin. Mais personne n'avait jamais entendu parler de lui, c'était juste un type ordinaire. Dans notre époque étrange, il n'y a pas de type ordinaire, rectifia Wade. N'importe quel individu peut se voir à tout moment confier une grande responsabilité, de même que personne n'est irremplaçable. Il avait prononcé ces deux dernières phrases en regardant d'abord Chung Sin, puis Mikhail Vanimov. C'est alors qu'une secrétaire du CDP invita Wade à le suivre. « Il me menace, » murmura Vadimov à Chung Sin. « Hier, il m'a fait une crise de colère en disant que tu pourrais facilement me remplacer. »« Mikhail, je... » Il leva la main pour lui dire de ne pas en rajouter. Mais l'éclat des projecteurs des hélicoptères passa à travers, illuminant les vaisseaux sanguins sous sa peau. « Il ne plaisante pas. Dans ce genre d'agence, on n'est pas tenu de suivre les procédures habituelles pour mettre quelqu'un à la porte. Toi, tu es stable, calme. » Bosseuse, et tu ne manques pas d'imagination. Et puis tu as un vrai sens de la responsabilité, tu ne te contentes pas de bien faire ton job. Sin, honnêtement, je serais ravi que ce soit toi qui prennes ma place, mais tu n'es pas prête. Il jeta un œil sur la confusion qui régnait autour d'eux. Parce que tu ne vendrais pas ta mère à un bordel et que, de ce côté-là au moins, tu es encore une enfant. Et j'espère que tu le resteras toujours. Ils virent comme Aline presser le pas dans leur direction. Elle brandissait dans la main une pile de documents. Chung Sin devina qu'il s'agissait du rapport provisoire de l'étude de faisabilité du programme escalier. Elle garda ainsi les documents en l'air pendant quelques secondes, sans donner l'impression de vouloir les donner à qui que ce soit, puis elle les jeta violemment sur le sol. « Qu'ils aillent au diable !» rugit-elle, tremblante de colère, si bien que même au milieu des vrombissements étourdissants des hélicoptères, beaucoup tournèrent la tête pour la regarder. « Des porcs, tous des porcs qui ne savent rien faire d'autre que se vautrer dans leur fange !»« De qui parles-tu ? » demanda Vadimov avec surprise. « Des hommes, de l'humanité tout entière. Il y a un demi-siècle, nous marchions sur la Lune, et maintenant plus rien, nous ne savons plus rien faire. » Chung Sin ramassa les documents. Puis Vadimov et elle les feuilletèrent. Il s'agissait bien du rapport de l'étude de faisabilité, mais il était rédigé en des termes si techniques qu'un simple coup d'œil ne suffisait pas à juger de son contenu. Wade les rejoignit. La secrétaire du CDP venait de l'informer que la réunion commencerait dans un quart d'heure. Ce ne fut qu'en présence du directeur de l'agence que Comaline retrouva un semblant de sang-froid. « La NASA a effectué deux essais de vaisseaux à propulsion nucléaire dans l'espace. Les résultats sont dans le rapport. Pour atteindre la vitesse demandée, l'engin doit être encore plus léger. Il faut réduire son poids à 1/20 de l'actuel. 1/20, ça veut dire 10 kilos. Mais attention, ils m'ont dit qu'ils avaient une bonne nouvelle. Ils pouvaient faire descendre le poids de la voile radiative à 10 kilos. Quelle efficacité ! Et puis, sur un ton de pitié, ils m'ont lancé qu'il ne restait que 500 grammes pour la charge utile, parce qu'une augmentation de la charge demanderait d'élargir les haubans de la voile, et que pour 1 gramme de charge, il fallait 3 grammes de haubans en plus, ce qui ne permettrait pas à la sonde de monter à 1/100 de la vitesse de la lumière. Voilà, nous avons le droit à 500 grammes. 500 grammes. Comme l'a dit notre petit ange, elle va être aussi légère qu'une plume, notre sonde. Wade sourit en hochant la tête. On pourrait envoyer Monnier, le chat de ma mère, mais il faudrait qu'il fasse un régime pour perdre la moitié de son poids. Quand ses collaborateurs travaillaient avec plaisir et enthousiasme, Wade était sinistre, mais quand tous paraissaient désespérés, il se détendait et faisait de l'humour. C'était dans sa nature. Chung Sin attribuait cette excentricité à ses qualités de meneur d'homme. Mais Vadimov prétendait qu'elle ne savait pas lire dans l'esprit des gens. Cette attitude n'avait rien à voir avec un comportement de leader ou une volonté quelconque de remonter le moral des troupes. Wade prenait simplement plaisir à voir désespérer d'autres individus, et ce, même si lui aussi aurait dû être en proie au même désespoir. Goûter à la détresse des autres était pour lui une jouissance. Cheng Xin avait été surprise d'entendre un homme aussi loyal que Vadimov avoir une aussi piètre opinion de Wade. Aujourd'hui, cependant, il avait raison. Wade paraissait en effet se délecter de leur chagrin. Cheng Xin se sentit chancelé. La fatigue accumulée depuis des jours se faisait ressentir. Elle s'assit mollement sur la pelouse. « Lève-toi !» dit Wade. Ce fut la première fois qu'elle refusa d'obéir à ses ordres. Elle resta assise.
« Je suis vraiment épuisée !»
lâcha-t-elle faiblement. « Toi et toi !» dit Wade en pointant tour à tour Cheng Xin et Comaline. « Désormais, je ne vous permettrai plus de perdre aussi stupidement vos nerfs. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller de l'avant, encore de l'avant, et ne jamais reculer devant rien !»« Il n'y a rien devant. Il faut laisser tomber, » dit Vadimov d'un ton sincère. « Si tu crois qu'il n'y a aucune route, c'est que tu n'as jamais appris à ne reculer devant rien. Que fait-on de la réunion? On annule ?»« Non, nous faisons comme prévu. Mais nous n'aurons pas le temps de préparer un nouveau dossier écrit. Nous présenterons notre projet à l'oral. »
« À l'oral ? Pour leur parler d'une sonde d'un demi-kilo ou d'un chat de 500 grammes ?»«
Ni l'un ni l'autre. » La dernière phrase de Wade raviva une flamme dans le regard de Vadimov et de Comaline. Cheng Xin, elle aussi, recouvra instantanément des forces et elle se releva comme un ressort. L'ambulance qui transportait le colmateur Luoji à l'hôpital s'éloignait sous l'escorte de véhicules et d'hélicoptères de police. Les lumières de New York retrouvaient leur clarté, et devant ce décor resplendissant, Wade apparut comme un spectre obscur, ses deux yeux scintillant d'une lueur froide. « Nous n'en verrons que le cerveau, » dit-il.